C'est l'information principale de cette conférence de presse. La veuve de cet homme qui a été retrouvé 27 ans après est mise en examen. C'est la principale suspecte. La veuve de Christophe Douard est considérée comme ayant possiblement assassiné, tué son mari il y a 27 ans, Dominique Rizet. Et la toute dernière déclaration est très importante.
Ouais, absolument.
Il y aurait des complices.
Elle n'était peut-être pas seule. C'est ce que dit le procureur de la République de Cusset, hein, Éric Neveu, seul pour découper, transporter le corps de son mari, de son compagnon dans ce fossé. En fait, on apprend donc, comme c'est la grande surprise ce soir, il faut avoir une pensée pour la mère de Christophe Douard, qui s'est toujours battue pour la vérité, pour son frère aussi, et puis une pensée pour celui qui a été accusé pendant 27 ans, Dominique Maillet, dont l'avocat est Gilles Portejoie, qu'on a eu tout à l'heure et qu'on entendra peut-être à nouveau. Dominique Maillet qui est chez lui ce soir.
Il sera avec nous dans un instant.
Et qui écoutait la conférence de presse du préfet. Des faits extrêmement graves et une affaire, on en parlait tout à l'heure, hein, avec Guillaume sur ce plateau, une affaire extrêmement difficile à remonter parce que comment peut-on, à partir d'un corps qui a 27 ans, et on imagine tous ce qu'on peut prélever sur un corps de 27 ans, espérer découvrir la vérité. Et en fait, sur les vêtements, ces fameux vêtements qui lui avaient été enlevés visiblement par ceux qui lui ont fait subir le sort qu'il a subi, eh bien sur ces vêtements qui avaient été lavés, il semblerait qu'on ait retrouvé des traces génétiques. Et ça, c'est pas nouveau. On l'a déjà trouvé dans des affaires criminelles, sur des vêtements lavés, des traces génétiques, notamment du sperme, parce que cette une substance qui s'élimine extrêmement difficilement, même au lavage. En tout cas, des personnes ont été, des personnes dans l'entourage, donc ont été identifiées, interrogées. Ça veut dire qu'on a des éléments précis. Et puis il y a cette histoire qu'on nous raconte, que nous raconte le procureur, selon un témoin. Donc le soir où Christophe Douard va dîner chez son frère la veille de sa disparition, il raconte cette histoire de l'accident qui a failli lui coûter la vie, d'un sèche-cheveux qui est tombé dans la baignoire alors que lui se trouvait dans la baignoire. Est-ce que c'était Natacha, une première tentative?
Mais Dominique, on se pose une question en écoutant le récit de l'affaire par le procureur. Mm-hmm. Quand on entend par exemple que la voiture du couple était garée entre le moment où Christophe Douard disparaît et le moment où on retrouve son corps, la voiture du couple est garée devant la maison. Elle disparaît, elle est volée et on la retrouve calcinée. Les enquêteurs ne se disent pas que c'est quand même un moyen extraordinaire de faire disparaître des traces? Pourquoi il n'y a pas de d'investigation dans ce sens?
J'ai pas de réponse. J'imagine que les enquêteurs se sont posé cette question. Visiblement, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été faites à l'époque, mais on est en 1995. La police scientifique n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. La gendarmerie a un pôle judiciaire qui est à Pontoise, qui s'appelle l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui est devenu aujourd'hui le PJJ, le pôle judiciaire GN de la gendarmerie nationale à Pontoise. Et en 95, on est au lendemain, pas très longtemps après, l'affaire des disparus de Mourmelon, 88-89, c'est juste 6 ans après, où celui qui faisait de la police scientifique s'appelait Loïc Le Ribaud, il avait un labo qui s'appelait le CARM, et il travaillait avec un microscope électronique à balayage, un MEB, et on est 5 ans après. Donc on va imaginer, c'est mieux comme ça, ou envisager que les enquêteurs aient pu manquer de moyens techniques.
Et on est avec Dominique Maillet, en fait. On le dit, c'est une affaire résolue 27 ans après et on peut aussi dire que ça fait 27 ans, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir, que vous êtes considéré dans votre village comme le principal suspect. Comment vous réagissez aujourd'hui après cette conférence de presse? On comprend bien que c'est la veuve qui est mise en examen, que c'est la veuve qui est la principale suspecte. Que ressentez-vous?
Faut que je parle maintenant.
Oui.
Hein? Non, j'étais un loup, je voulais bouffer soi-disant tout le monde. Et le loup, il sort du trou. Mais le loup, vous savez ce qu'il veut? C'est que les coupables, qu'ils soient trouvés, mais moi, je ne vais pas me laisser faire comme ça. Ce que je veux, c'est que mes enfants, mes petits-enfants, ma belle-fille, des trucs comme ça, tout le monde en souffre. J'ai perdu mon fils, il s'est suicidé par rapport à toutes les conneries qui sont passées partout sur les journaux. Donc aujourd'hui, j'espère que la justice, elle va faire son boulot. Et je remercie Portejoie et le procureur de la République, parce que pour moi, ils ont fait vraiment un bon boulot. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire, mais faites que ça bouge.
Voilà. Vous avez vécu l'enfer, vous avez été soupçonné dès le début.
26 ans et demi d'enfer. J'ai perdu mon gamin. J'ai perdu mon gamin, et ça pour moi. Et c'est depuis qu'au mois d'octobre, ça a paru sur la télé, je ne me rappelle plus des dates exactes. Et depuis ce jour-là, il a perdu un peu la tête. Il a fait des conneries derrière. Et s'il n'y avait pas eu tous ces articles, parce que tous les journalistes ne sont pas bons, il y en a, c'est des vautours, c'est des rats, il leur faut de la pub. Hein. Vous m'excuserez du terme, hein, mais moi j'ai perdu mon gamin par rapport à ça. Donc il ne faut pas falloir qu'il y en ait qui paye. Hein.
Donc, vous nous dites que votre enfant, votre garçon s'est suicidé à cause de cette affaire. Parce que c'était trop de pression sur votre famille.
Depuis le mois d'octobre, quand ça avait paru l'article, que son frère avait fait paraître un article comme quoi que c'était moi, et il a cité mon nom, je voulais déposer plainte, j'en ai parlé avec lui. Il m'a dit non, il y en a marre de ces histoires, on arrête. Mais j'aurais peut-être mieux fait à l'époque d'aller déposer plainte, parce qu'on n'a pas le droit de dire que c'est un tel qui a tué telle personne. Et ben, ça l'a travaillé, puis il a perdu la boule, et puis il en a peut-être ras-le-bol, et ben il s'est suicidé, il s'est pendu, je vous m'excuserai. Mais j'ai perdu un être cher, et j'ai perdu lui. Hein, vous êtes toujours là?
Oui, on vous écoute, oui. Vous nous dites.
Lui est toujours là, mais ceux qui restent, lui, il n'est plus là, mais ceux qui restent, que ce soit ma belle-fille, mes enfants, mes petits-enfants, tout le monde en souffre. Alors, faut que la justice fasse ce qu'elle a à faire. Voilà.
Dominique Maillet, c'est Dominique Rizet, on vous avait donné un surnom là où vous habitez, dans le village. Comment est-ce qu'on vous appelait ?
Le coupeur de tête. Le coupeur de tête et quick-quick. Hein ? Quick-quick.
Cette réputation qu'on vous avait faite, cette accusation à tort, toute votre famille l'a vécu.
Oui, tout le monde l'a vécu. Ouais, j'ai mon fils, mes petits-enfants à côté de moi, j'ai ma fille et tout, et ben, ils ont connu tout ça, et puis aujourd'hui, ben, ils en souffrent.
Comment est-ce que tout le monde réagit autour de vous, là, ce soir? Vous avez entendu le procureur de la République qui a dit qu'elle reste présumée innocente, mais que la compagne de Christophe Douard était mise en examen pour meurtre, qu'elle encourt 20 ans de prison. Comment est-ce que tout le monde a réagi quand vous avez entendu ça devant votre téléviseur?
C'est pas 20 ans qu'il lui faudrait.
Comment vous avez réagi, sans parler de la peine? Comment est-ce que vous avez réagi autour de vous?
Ben, vous voyez, j'ai mes enfants à côté de moi qui pleurent parce que je ne sais pas si vous comprenez la douleur qu'on a tous. Hein? Vous écoutez quand même, non? Non, écoutez. Hein? Non? Hein? Ils en ont souffert toute leur vie et puis aujourd'hui, encore, c'est encore pire. C'est encore pire. Hein? Alors, mais merci, monsieur le procureur, et merci à monsieur Portejoie.
Monsieur Portejoie, c'est votre avocat, Gilles-Jean Portejoie.
Ouais, Jean-Gilles Portejoie, c'est un homme admirable. Il a toujours compris que. Il a compris que moi, j'étais pas aimé, j'étais un bosseur, je suis sorti de rien, je suis arrivé à quelque chose et aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que j'ai plus rien, si vous voulez. Mais j'ai plus un être qui m'était très cher. Mmh. Voilà.
Hein. Est-ce que la justice vous a rendu quelque chose ce soir? Votre honneur? Un nom? Vous allez marcher
pas encore, la tête? Non, pas encore. Mais j'espère qu'elle ira jusqu'au bout. Mais moi aussi, mais je vais rester calme. Tout le monde pense que je vais faire des bêtises. Je ne ferai pas de bêtises. Ce que j'attends, c'est que ça aille au bout. Mais je resterai toujours calme. Ça ne me ramènera pas mon fils. Hein. Mais j'attends. J'espère que dans les jours qui viennent, on aura un peu plus de nouvelles. Mais pour moi, vous voyez, j'ai toujours pensé que c'était une histoire de famille et je ne me suis pas trompé. À l'heure qu'il est, je ne me suis pas trompé.
C'était votre instinct dès le début? Vous soupçonniez vous-même la veuve?
Oui, parce que c'est son cher frère, il baisait sa femme. Hein? Non, mais je peux le dire. Hein,
c'est non, on ne peut pas dire des choses comme ça.
Non, mais non. Vous nous dites en monsieur, gros que c'est une affaire de famille. Dominique Maillet, encore une question. On entend la colère qui vous anime encore et on comprend très bien pourquoi. En fait, l'information de la veuve entendue sous le régime de la garde à vue, on l'a depuis ce matin. Est-ce que depuis, vous avez croisé d'autres habitants, d'autres voisins? Est-ce qu'il y a eu des échanges? Est-ce que certains se sont excusés?
Ah, mais faut pas qu'il vienne s'excuser, hein. Faut pas qu'il vienne me tendre la main, hein. Non. Non, non, faut pas qu'il vienne me tendre la main. Par contre, j'ai fait un petit truc ce matin, c'est l'ancien coupeur de tête, et j'ai claqué la porte, voilà, et je suis parti. Hein.
Voilà. Là, ce matin, vous êtes entré dans un bar où vous n'aviez pas mis les pieds depuis 25 ans, vous avez ouvert la porte, vous avez dit au client, le coupeur de tête vous salue bien, et vous avez claqué la porte, vous êtes reparti. Ça voilà. Vous a fait du bien ?
Oui, c'est ça, oui, c'est bien ça, c'est bien ça.
Pourquoi vous avez fait ça ?
Ben, parce que j'en avais besoin. Donc, c'est des gens qui m'ont toujours dénigré, machiné comme ça et tout. Je vous dirai pas exactement où c'est, mais voilà. Et je pense qu'ils doivent les raser, les murs, hein, je pense. Parce que, je sais pas vous, mais les journalistes qui ont traîné dans le coin et tout, sur le Busset, le Vernet, partout et tout, je pense qu'ils ont pas dû trouver beaucoup de gens qui leur ont parlé. Hein. Je pense qu'ils ont rasé les murs, hein, je pense. Enfin, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, je n'ai pas été voir. Et j'ai d'autres soucis que ça. Moi, ce que je veux, c'est que justice soit rendue. Et qu'il y ait des indemnisations, parce que même dans ma famille, il y en a qui m'ont accusé. Hein. Vous êtes au courant quand même, non ? Je pense, non ?
On comprend que c'est un drame familial et que... Enfin, en fait, pour tout vous dire, on a des frissons en entendant votre témoignage et en entendant les sanglots autour de vous. Merci beaucoup d'avoir témoigné, Dominique Maillet, sur BFM TV. On attend aussi encore beaucoup de réponses aux questions que nous nous posons, Guillaume, et elles sont nombreuses. On ne sait pas encore ce que la veuve de Christophe Douart dit en garde à vue. Est-ce qu'elle donne le mobile ? Est-ce qu'elle dit s'il y avait oui ou non des complices ? On l'ignore.
Ce qu'a dit Éric Neveu, hein, le procureur de la République, c'est qu'elle continue de nier, alors même que des éléments lui ont été présentés. Ce que l'on peut déduire aussi du chef de mise en examen pour meurtre, du placement en détention provisoire, c'est qu'il y a des éléments qui sont quand même précis, graves, concordants à son encontre. Et cela, après des mois d'enquête, Éric Neveu l'a rappelé, quand même 15 enquêteurs, dont des spécialistes en criminalistique, qui ont travaillé pendant 8 mois sur toutes les hypothèses, l'hypothèse crapuleuse, qui a manifestement été assez vite écartée, l'hypothèse du contentieux entre chasseurs, qui a été l'hypothèse longtemps privilégiée, mais qui s'est soldée, et Éric Neveu, le procureur de la République, l'a très bien rappelé, par plusieurs non-lieux. Un non-lieu en 2000, un non-lieu en 2007, une réouverture de l'enquête en 2017, mais qui ne donne rien. Et puis 2020, 2021, ça s'accélère. Et là, la piste du contentieux, cette fois-ci conjugal, familial, est privilégiée. Et au-delà des investigations en police technique et scientifique, parce qu'il y a eu une exhumation du corps de Christophe Douart, il y a l'interrogation, les interrogatoires, les auditions de tout l'entourage. Et à ce moment-là, des éléments qu'il ne révèle pas dans sa conférence de presse deviennent des éléments à charge contre cette femme. D'où d'abord son audition et puis ensuite sa mise en examen. Maintenant, reste à comprendre quel est effectivement le mobile. Moi, je retiens que la mise en examen, elle est du chef de meurtre, pas d'assassinat à ce stade. Après, ça peut tout à fait être
oui, après, il y a cet élément troublant que rappelait Dominique Rizet, l'histoire du sèche-cheveux dans la baignoire qui est rapportée par un témoin. On se dit, s'il y a eu une première tentative et qu'ensuite, il y en a une autre qui mène à la mort de ce monsieur, peut-être que c'était prémédité, mais peut-être que nous allons trop loin, en effet.
En tout cas, il y a un contexte. Et ça, ce contexte est retenu contre elle. Le contexte d'un couple qui n'allait manifestement pas bien, qui était dans une relation qui était devenue conflictuelle, et conflictuelle au point peut-être d'avoir la volonté de tuer. Maintenant, est-ce qu'elle était la seule à avoir cette volonté ? Est-ce que cette volonté était partagée par d'autres, notamment des membres de la famille ? Et est-ce qu'elle a agi seule ou est-ce qu'elle a agi avec une aide et avec une assistance ? Dans la conférence de presse, on comprend en creux qu'il y aurait probablement, peut-être, une assistance qui lui aurait été prêtée, mais on n'en sait pas davantage. Ce qui veut dire que les investigations vont se poursuivre. Puis après, il y a une grande inconnue. C'est bien évidemment qu'est-ce qui motivait un crime d'une telle sauvagerie ? On parle d'une décapitation. Puis qu'est-ce qui a été fait de la tête ? Puisque cette tête n'a jamais été retrouvée. C'est un corps étêté qui a été retrouvé. Et évidemment, ça interroge sur le mobile. Est-ce qu'on a tué de façon pulsionnelle ou alors est-ce qu'il y avait vraiment une intention, une préparation, une préméditation ?
On suit cet incroyable rebondissement, Natacha, cette veuve qui est mise en examen pour meurtre. Et puis en même temps, l'autre histoire, ce témoignage qu'on vient d'entendre de Dominique Maillet était particulièrement émouvant. Sa vie brisée en raison de ce drame.
Et il faut bien comprendre qu'il y a une dimension absolument essentielle là-dedans, c'est la question du sens que peut avoir la présomption d'innocence. Il y a eu plusieurs non-lieux. C'est-à-dire que la justice a conclu, donc, qu'on ne pouvait pas considérer Dominique Maillet comme coupable, qu'il était impossible d'établir la moindre culpabilité, que donc, au regard de la justice, il était innocent. Et malgré tout, toute sa vie, cet homme est accusé, les gens continuent à le considérer comme coupable. Il faut bien méditer ça, parce que c'est vrai dans une affaire aussi tragique, c'est vrai dans toutes les affaires de justice, et cette question-là, il faut comprendre à quel point tout cela provoque des drames, et c'est pour ça que ça existe, la présomption d'innocence, c'est justement parce que la pulsion naturelle est de garder dans la tête, malgré toutes les preuves, que telle personne qu'on a décidée coupable, on doit la considérer comme coupable.
On continue. Vrai, Natacha, mais quand le regard des enquêteurs s'est tourné vers cet homme, vers Dominique Maillet, c'est ce regard qu'a suivi toute la population. Et au-delà de ces non-lieux, donc non-lieux, il n'y a pas lieu à poursuivre. Et ce que vous dites est terriblement vrai, c'est que dans la mémoire de chacun, ça reste, il n'y a pas de fumée sans feu.
Exactement, et ça c'est tragique.
Bien sûr. Et ça se termine, peut-être, parce que ça reste à établir, mais ça devrait être vérifié par le suicide de son fils de 30 ans.
On continue à en parler dans un instant, vous restez avec nous Dominique et Guillaume. Je voulais vous remercier, Natacha, les circonstances sont particulières, mais c'était un bonheur de bosser avec vous toute cette année, avec toi. Un bonheur de te connaître aussi. On avait prévu d'autres choses pour se dire au revoir, mais bon voilà, l'actualité prime, c'est aussi ça.
C'est aussi ça, BFM TV, ça doit être accepté, mais merci.
Oui, il y a un bouquet de fleurs.
Il y a un grand bouquet de fleurs.
Merci Aurélie pour ton professionnalisme, et tu viens de le prouver, et merci pour
j'espère te revoir bientôt, tu reviendras nous voir.
Évidemment.
On est assez émus.